CKRL 89.1. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 12 novembre 2017. Alors, heureux de vous retrouver ce soir. J'en profite pour remercier Jean-Pierre Guay d'avoir tenu l'antenne ces deux dernières semaines. Alors, ce soir au programme, je vous propose une rencontre avec l'artiste Alexandre Berthier. C'est un artiste multidisciplinaire de Québec qui nous présente son parcours artistique à travers un usage vraiment singulier de la photographie, de la vidéo et du son. Il fait ça depuis une quinzaine d'années. C'est un parcours qui est émaillé de nombreuses collaborations, dont celle qui l'unit à Carl Otto von Hörtzen au sein d'un duo de création artistique nommé Mars Walker. Alors, on peut dire que ça sent la forêt luxuriante, le printemps sonore, je dirais, en ces périodes de froid. On pourrait dire qu'avec ces tonalités qui évoquent les débuts de la musique électronique, je pense évidemment à Hank Badding, à Louis et Bébé Baron, à Ligeti. Donc, le travail d'Alexandre Berthier, on vient d'en entendre un extrait qui, lui, est tiré d'une installation vidéo-poétique, intitulé Cœur. C'est un projet qu'il a produit avec le soutien de Production Rhizome en 2014 et c'était réalisé avec le poète et auteur Michel Trahan. Maintenant, je vous présente Alexandre Berthier, un artiste qui s'adonne à la création sonore, vidéo et photographique depuis une quinzaine d'années dans le contexte d'installation et de performance qu'on peut qualifier de multimédiatique. Alexandre a réalisé en 2009 une création vidéo multi-écran d'envergure pour le Conseil régional PACA de Marseille. Et plus récemment, il participait à la réalisation du documentaire relatant l'aventure du collectif BGL à la Biennale de Venise, édition de 2015. Alexandre Berthier nous propose ce soir une incursion dans son univers artistique multidisciplinaire nous propose également ses œuvres sonores qu'on a pu voir, entre autres, au Mois Multi à Québec, au Bain Numérique à Paris, au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. au Sounds Like de Saskatoon et au Centre d'art Espace F à Matane ces dernières années. Alexandre Berthier, c'est un adepte de la collaboration artistique qu'il a développé de manière singulière, on pourrait dire, avec l'artiste Carlotto Van Ordzen pour former le duo Mars Walker. Ils ont présenté tous deux leurs œuvres communes au Sian de Prague, à la Galerie de Public à Birmingham, à la Wimbledon School of Art de Londres, au Rockport Center for Contemporary Art, ainsi qu'à l'Œil de Poisson de Québec. Et là, j'allais oublier sur ma petite liste le Centre d'art de Tupac à Lima, au Pérou. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le duo Mars Walker ne chôme pas. Je souligne pour finir qu'Alexandre Berthier a régulièrement collaboré avec le Théâtre d'ingénierie, l'Orchestre d'homme orchestre, ainsi que la compagnie de danse Code Universel. Alors, sans plus tarder, on écoute les propos, les réflexions et les travaux sonores d'Alexandre Berthier. Alexandre Berthier, bienvenue à La Croche-Oreille.
Merci pour l'invitation.
Alexandre, d'entrée de jeu, j'aime toujours un peu aborder la question de la démarche artistique, mais aussi de ses origines. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'histoire de ton parcours comme de créateur sonore, mais aussi de créateur au sens multidisciplinaire du terme.
Ben oui, parce que je trouve ça intéressant, parce qu'on est là pour parler de son, mais moi, je viens vraiment de l'image au départ. Je suis vraiment quelqu'un qui a commencé à faire de l'art par la photographie, en fait. Avant même que je fasse une école d'art, avec mes potes, on s'est mis à faire de la photo, et puis on développait des images, et puis on passait nos nuits à faire ça, et puis j'étais vraiment mordu de photographie. Puis la photographie m'a amené à l'image en mouvement. Donc on s'est mis à faire des films sur pellicule, en Super 8, etc. etc. Puis finalement j'ai fait une école d'art, et puis là j'ai fait une rencontre qui a été importante avec quelqu'un, Karl, avec qui j'ai beaucoup collaboré, et qui lui était plus proche du son que moi, s'intéressait plus au son que moi. Et donc, à force de collaboration, on s'est mis à faire pas mal de sons. En même temps, je suis un féru de musique, donc ça sort pas de nulle part. Hein. C'est pas que je m'intéressais pas au son, mais c'est vrai que, à part la musique, je connaissais pas vraiment l'univers de l'art sonore, en fait. Puis, c'est à force de projets, de découvertes, que, effectivement, je me suis rendu compte à quel point c'était un champ vaste, et puis... presque plus malléable que l'image, d'une certaine manière.
Ce que tu racontes, cette influence de la musique, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration qui sont particulières à cette époque-là de début de collaboration et d'intérêt pour la musique, le son?
Bah, c'est sûr que moi, c'est à un moment donné la découverte du jazz qui m'a ouvert un pan gigantesque sur la musique. Je pourrais dire que c'est sûr que ça a changé ma manière d'écouter la musique. Puis ça m'a ouvert sur beaucoup d'autres musiques. Donc le jazz et ses formes assez libres finalement, qui ont aussi amené à des croisements assez incroyables dans l'histoire de la musique, m'a ouvert beaucoup de choses. Donc c'était vraiment pendant mon adolescence, quoi. Donc, et c'est à peu près en même temps que j'ai commencé à faire de l'image, donc je m'intéressais de plus en plus à l'art, en fait. même si je remercie ma mère beaucoup de m'avoir emmené voir plein de choses quand j'étais jeune, et donc ça, je veux dire, j'avais déjà une ouverture et j'avais déjà un intérêt. Le jazz, c'est vraiment quelque chose qui a une grande influence.
Cette collaboration avec quelqu'un que tu n'as pas nommé. J'aimerais que tu réenchaînes sur cette collaboration avec Karl.
Oui, donc Karl, de son nom complet, Karl Otto von Oertzen, donc allemand d'origine, mais né en France. On s'est rencontrés à l'école des Beaux-Arts, en fait. Puis, un jour, j'avais l'idée d'un film, et puis je cherchais quelqu'un pour jouer mon personnage, et puis... Bon, je sais pas, je le connaissais pas bien, on sympathisait déjà, et puis je dis, ça te dit pas de jouer dans mon film. Puis, suite à ça, on n'a pas arrêté de travailler ensemble, et ça fait 15 ans déjà. Mais ce qui est intéressant avec Karl, c'est que notre amitié s'est développée à travers notre pratique. Puis on s'est jamais dit, on bosse ensemble. Ça s'est fait de manière très très naturelle. Lui venait beaucoup de pratique. Peinture, sculpture, et s'intéressait beaucoup à la musique, mais à d'autres formes de musique, plus techno. Et c'est lui qui m'a entraîné un peu. On a découvert le logiciel MaxMSP à ses tout débuts, grâce à un professeur qui nous a introduit ça. Puis on s'est mis à faire du son, en fait. Puis on s'est mis à faire des installations sonores. Et on en a fait plusieurs, on en a montré trois à notre diplôme. Puis on en a toujours fait un petit peu, en fait, en parallèle à notre travail d'image, en fait. Donc oui, ça a été une belle rencontre de deux univers musicaux différents, de deux oreilles différentes, de deux regards sur le monde, mais finalement qui se rejoignent à plein d'égards, parce que je pense qu'on se ressemble, en tout cas sur notre vision du monde, énormément. Donc c'est une collaboration très très naturelle qui s'est faite.
Si tu veux, Alexandre, on va entendre une pièce du travail que tu as réalisé avec Karl. Thank you. Alors, Alexandre, ce qu'on vient d'entendre, ça s'intitule déjà?
Cette pièce s'intitule « Inutile, nécessaire ». En fait, c'est une pièce qu'on a montrée à notre diplôme des Beaux-Arts. Étant tous les deux collectionneurs de vinyle, on a commencé à enregistrer le dernier sillon qui permet au bras de pas déraper et de tourner en boucle. Donc c'est ce fameux son vraiment de matière du vinyle elle-même, quoi, de craquement, etc. Mais chaque vinyle, ce son-là est très très différent selon les vinyles, selon l'âge du vinyle, selon son état, etc. Donc ça fait des craquements plus ou moins subtils. Puis on en a enregistré, je sais pas, 200, 300. Puis on a fait une composition de ça, qu'on a regravé sur un vinyle, en fait. Donc on a créé notre propre vinyle, de sa propre matière. Et on est allé, on a gravé ce qu'on appelle un test press. C'est-à-dire que c'est le premier vinyle qu'on grave pour faire des tests. Mais ce vinyle, à force d'être écouté, s'altère. Donc d'autres craquements apparaissent. Donc c'est tout ce jeu subtil entre ce qui a été enregistré, qui provient d'autres vinyles, et puis des craquements qui viennent de son altération même. Donc c'est cette espèce de dualité qu'on a mis en exergue dans ce projet. Mais et puis il était présenté sur une platine à l'écoute. Et puis, donc c'était un objet, c'était vraiment un objet.
Comment s'est fait l'enchaînement par la suite sur le plan sonore? Ça a débouché sur un travail qui était dans la continuité avec Carl sur le plan sonore, ou si... comment vous abordez, après les études, le métier de créateur?
On a continué à utiliser le vinyle, mais plus en performance, où on faisait des lives à deux, de collages, superpositions de sons, donc vraiment des univers provenant de plein de vinyles différents. Puis, par la suite, on a fait plusieurs œuvres sonores... Je dirais, dans notre travail, on a souvent eu besoin de parler de l'état du monde où on était. Donc souvent, j'aime pas trop parler d'art politique, mais c'est plus un art politisé d'une certaine manière. Puis on a fait des œuvres qui répondaient à quelque chose qui nous touchait dans l'immédiat. On a fait une œuvre sur les questions des guerres. On était en pleine invasion de l'Irak, on vivait aux États-Unis avec Carl, on a fait une pièce vraiment sonore, juste avec des haut-parleurs qu'on a fabriqués avec du papier qui se mettait à vibrer parce qu'on travaillait avec des infrabasses, puis on passait à travers des sons provenant des médias, de la guerre, mais c'était des sons très furtifs, donc ils se mettaient à faire vibrer le papier. On n'avait jamais le temps d'écouter le son parce que les speakers étaient éparpillés dans l'espace. Donc c'est toujours des pièces, on joue toujours avec cette chose, la chose qui nous échappe, en fait, ou qui va échapper au spectateur dans notre travail d'image, c'est très flagrant, mais dans le son aussi, en fait. Donc on a fait des pièces comme ça, on a détourné aussi un mégaphone. À un moment donné, on a travaillé avec un mégaphone qui se mettait à marcher par lui-même, avec cette espèce de boucle de choses provenant de la publicité dans un espace saturé de lumière. C'est toujours des œuvres quand même assez fortes.
drove an accident. Oh, yeah. No, but for in about the summertime, probably around 6 months, we're going to want to get our own place. But for now, we're just trying to. I'm going to work, he's going to work, we're going to save up as much as we can. Yeah, but I think, like for the marriage part, we're probably going to postpone it a little bit until we're all settled down. So, I think he just wants to put everything on there.
Si on aborde maintenant, Alexandre, ton parcours perso comme créateur sonore, mais aussi comme artiste multidisciplinaire, comment ça chemine? Bon, il y a ce travail de collaboration avec Carl, mais il y a ce travail que tu vas mener comme créateur singulier. Et comment tu caractériserais ton travail?
En fait, d'abord, ce que je dirais, c'est que moi, j'aime toujours aller dans des directions où je dirais pas que je suis moins à l'aise, mais un peu plus aventurière d'une certaine manière. Donc c'est vrai que le son, bon, il y a eu le travail Carl, etc. Puis je me suis dit, oh, je pourrais faire des projets en solo, mais c'est vrai que je me considère pas comme concepteur sonore. Pour moi, le son, c'est une matière, c'est un médium. Donc moi, j'aime toucher à tous les médiums. Puis c'est sûr que en arrivant ici, puis en passant de plus en plus de temps à Avatar, il y a eu des envies de faire des choses. Maintenant, je suis membre actif, donc je suis assez lié à Avatar. Puis il y a des choses qui ont découlé, des propositions. Et puis du coup, je me dis ouais, ok, super, je fais du son. Puis je prends du plaisir et je prends de plus en plus de plaisir à le faire en fait. Et puis je dirais que justement moi qui viens beaucoup de l'image, je trouve que le son, c'est vraiment une matière sculpturale incroyable. Je le compare souvent à un morceau de terre glaise. Quoi. Je trouve ça beaucoup plus malléable que l'image et que la vidéo encore plus. Quoi. Et donc là, je découvre ça de plus en plus. Donc j'ai de plus en plus de plaisir à travailler cette matière. Puis du coup, j'ai été amené à faire des projets sur invitation, par exemple, pour le mois multi Momentum.
À cet égard, ouais, Alexandre, j'aimerais ça que tu nous parles de Momentum, ce projet à la fois qui est performatif en live, mais il reste que le processus de travail est tout de même vraiment impressionnant.
Oui, alors ça, c'est suite à une invitation de Caroline qui faisait les cabarets audio une année, ou je ne sais plus, elle l'a fait plusieurs années, mais bref. Puis elle m'a dit, ça te dirait pas de faire quelque chose, ta. J'ai dit, oui, moi, quand on me tend des perches, justement, en son, j'ai dit, ok, super, puis je savais pas trop, puis en réfléchissant, puis j'avais des images que j'avais déjà tournées, puis je me suis dit, ça serait intéressant de faire un son live sur des images déjà existantes. En l'occurrence, c'était un long travelling à partir d'un train que j'avais tourné en Inde, en fait. Puis je me suis mis à penser au fait que dans le monde, là, maintenant, présentement, des gens vivent des choses extrêmement différentes. On est 7 milliards d'individus. Et donc, je trouvais que la radio était un bel outil parce qu'à un temps T, il y a une multitude de choses qui se disent et qui sont transmises via les ondes avec la radio. Donc, je me suis dit, ce serait intéressant de travailler avec une radio onde courte qui peut capter en temps réel des radios du monde entier. Donc, ça, c'était mon point de départ. Puis, encore une fois, pour brouiller les pistes, parce que j'aime bien brouiller les pistes, je travaillais pas juste avec des sons de la radio live, mais j'avais aussi des sons préenregistrés qui faisaient peut-être penser que c'était live, mais qui disaient des choses très précises et qui venaient faire un peu un clash avec les images qu'on voyait. Et donc, cette espèce de parallèle-là, je le trouvais très intéressant, en fait, parce qu'effectivement, avec la radio que je manipulais en temps réel, je savais pas ce que j'allais entendre. Donc des fois c'était juste des sons abstraits, des grichements, des fois je captais une voix ou une en chinois, je captais des radios en Chine, je captais des chansons et puis parfois c'est, voilà, je faisais un collage qui durait à peu près 40 minutes à partir de d'autres matières que j'avais enregistrées, des sons d'amis musiciens qui m'ont enregistré des choses. Donc ça faisait vraiment un univers sonore assez riche, très dense même, je dirais, mais qui constamment clashait avec les images qu'on voyait à l'écran, en fait.
Si tu veux, Alexandre, on va écouter un extrait assez substantiel tout de même du projet Momentum.
Disney presents This is not Santa's workshop. It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Now, a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this. But there's a lot of satisfaction in developing ideas into reality, which become a part of Disneyland. Now, we've just finished the first year of our second decade. It was a big year for the opening of many new attractions. Since they were opened, 7 million people have enjoyed them. So we'd like for you to see and enjoy them too. But first, let's turn back the calendar to the beginning of Disneyland's second...
humaine considérée comme une consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d'aller voir ce qui est devenu banal. L'aménagement économique de la fréquentation de lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. La même modernisation qui a retiré du voyage le temps lui a aussi retiré la réalité de l'espace.
Behavior. I am not a racist. I don't subscribe to any of the tenets of racism.
Then there are good whites and good blacks and bad whites and blacks.
It's not a case of being good and bad, good or bad, blacks and whites. It's a case of being good or bad human beings.
Alexandre, Momentum, ça marque tout de même un tournant dans la production de l'art sonore chez toi. Je sais aussi que tu as collaboré à beaucoup de productions artistiques à Québec sur le plan vidéographique, mais aussi sur le plan sonore. Et j'aimerais, pour compléter notre rencontre de ce matin, parce qu'on est en matinée, j'aimerais que tu me parles de tes derniers projets, là, ce qui t'anime actuellement comme créateur.
Ben, oui, effectivement, je pourrais nommer quelques quelques pièces que j'ai réalisées suite à des invitations. Je travaillais pour Rhizome, pour leur projet Cœur, en fait, où ils jumellent un artiste sonore avec un poète. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant de travailler. C'était pas à partir d'un texte, parce que c'était moi qui devais envoyer une première œuvre sonore à partir de laquelle l'artiste écrivait un texte, le poète, pardon. Puis il me la renvoyait, et puis moi je devais créer une œuvre qui accompagnait ce texte, en fait. Puis j'ai trouvé que c'était un projet vraiment, vraiment intéressant à faire. Puis j'avais, voilà, ce que je trouve génial, c'est que c'est carte blanche, je peux partir avec des sons qui viennent vraiment de partout. Puis c'est cette liberté-là, je trouve, en son qui me plaît beaucoup, en fait.
Et tu as travaillé avec un ou plusieurs poètes? Un poète, et avec qui as-tu travaillé?
Michael Trahan. C'est une installation au final. Je sais que là, Simon essaie de faire tourner cette installation. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai travaillé aussi pour un photographe qui s'appelle Renaud Philippe, qui avait fait un long parcours en bus dans le Canada, qui avait pris des images, qui avait enregistré aussi des sons. Il voulait une installation. Et puis, je me suis occupé vraiment de la partie visuelle et sonore de son installation. Donc, j'ai pensé vraiment une création sonore pour ça, qui remet un petit peu dans l'état un peu de transe du bus quand on passe des journées dans le bus avec le son du moteur. Je travaillais avec des résonateurs qui faisaient vibrer les murs, qui faisaient ressentir un peu cette espèce de carrosserie qui vibre. Donc ça, c'était intéressant. C'est toujours bien de travailler avec d'autres créateurs ou pour d'autres créateurs, parce qu'eux, ils arrivent avec des idées, ils veulent un univers, donc c'est quand même assez cadré. Mais en même temps, t'as quand même un champ libre incroyable, donc dans ton interprétation, etc., etc.
Alex, on écoute des extraits de ces deux projets que tu as menés avec poésie, photographie. Alors, on écoute ça ensemble.
Bah là, récemment aussi, cette année, j'ai fait une œuvre sonore que j'ai vraiment beaucoup aimée et eu beaucoup de plaisir à faire. J'ai été, via Avatar, on a travaillé avec le centre Pêche. Donc, un projet initié par Fanny Hénon-Lévy, en fait, qui est une artiste qui travaille beaucoup le dessin, la sculpture, etc. Et qui, elle, fait beaucoup d'ateliers à Pêche avec des gens qui ont des problèmes en santé mentale. Puis elle voulait faire une exposition à Pêche, et puis elle voulait une dimension sonore, elle en a parlé à Avatar, Avatar m'a proposé de faire le projet. Puis suite à ce projet, c'est gravé aussi le musée de la civilisation, ce qui fait que suite à plusieurs ateliers qu'on a fait avec un groupe de gens, on a fait du son, et elle s'occupait du volet sculpture, moi je m'occupais du volet sonore. puis j'ai fait des enregistrements avec eux, en fait. On était un peu comme toi et moi, là, et puis je les prenais un par un, et puis l'idée, c'était de parler de leurs rêves, donc au sens vraiment onirique, ou même les rêves qu'on a en général, mais je voulais qu'ils en parlent de manière sonore. Donc c'était tout un défi pour moi, parce que le son, autant bon, la peinture, le dessin, la sculpture... Il y a quelque chose d'assez direct, les gens connaissent, mais le son, les gens étaient vraiment angoissés. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Puis voilà, mon rôle, c'était de les mettre en confiance et puis finalement de leur faire comprendre. Je leur ai montré des exemples qu'avec le son, avec des sons simples, en les transformant, on peut créer des univers hallucinants. Puis ça, c'était un beau défi. Et puis suite à toute la matière que j'ai enregistrée avec eux, ben, j'ai fait une composition sonore qui a été présentée à Pêche, mais aussi au musée de la civilisation. En fait, c'est le son de l'exposition sur le cerveau qu'il y a présentement, en fait. Donc l'expo dure un peu plus d'un an. Et donc ça, c'était très intéressant. C'est vraiment ce qu'on appelle du sound design. Mais en même temps, voilà, et encore une fois, j'avais carte blanche, parce que, bon, une expo sur le cerveau, on aurait pu me dire, ah ben on veut... Non. C'était vraiment, je pouvais y aller où je voulais. Et puis j'ai vraiment... là, j'ai sculpté la matière comme, je pense, rarement je l'avais fait, en fait, à ce point-là. Puis ça crée effectivement une ambiance avec des moments très calmes, des moments un peu plus denses, etc. Mais juste à partir de cette matière que j'ai fait avec les gens. Et ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. On peut en écouter un extrait.
Oui, tu donnes vraiment le goût d'écouter. Alors, on écoute un extrait. Quel est le titre? Est-ce qu'il y a un titre en particulier de cette production sonore où elle accompagne l'exposition?
Ouais, non, elle n'a pas de titre propre.
Donc, ce sera un inédit pour la radio. Ouais. Alors, Alex, je complète cette entrevue. Les projets à venir pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, des choses qui se dessinent?
Oui, ben, je suis pas mal en création avec plusieurs créateurs pour pas mal de spectacles, en fait, c'est marrant. Puis j'ai aussi une amie d'Europe, une Finlandaise, qui m'a proposé de faire le son pour un de ses films, en fait. Bon, c'est un film documentaire, mais qui sera sous forme d'installation. Donc, ça va être ma prochaine création sonore, je pense. Puis ça, c'est un autre défi encore. Ça, je l'ai jamais fait pour le film. Enfin, pas pour le film de quelqu'un. Et bien, parce que c'est pour accompagner justement des voix et beaucoup d'interviews. Donc, c'est créer une ambiance qui prenne pas trop le dessus, mais qui crée aussi une charge émotionnelle. Donc, ça va être pour 2018. Puis on va retravailler Noctiluca avec Karl. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs.
Peut-être un petit mot sur cet univers sonore de Noctiluca.
Ben alors, Noctiluca, donc l'œuvre qui a été présentée au Bois Multi cette année, qui est une œuvre principalement visuelle, mais pour laquelle aussi il y a un travail sonore. Pour nous, le travail sonore est pas du tout abouti, donc on a quand même un défi. Je sais pas, le défi c'est pas le bon mot, mais en tout cas on a du travail pour créer vraiment quelque chose qui sert l'œuvre, en fait. Mais on a travaillé beaucoup avec les traces de vieux appareils, de bruit blanc, de choses qui servent à écouter du son, mais quand on met pas de son dedans, il y a quand même du son qui sort, en fait. Donc une cassette vierge sur laquelle on fait play, qu'on réenregistre, qu'on replay, qu'on réenregistre, tout ça, c'est une matière. Donc c'est quand même, encore une fois, des traces furtives, des traces évanescentes qui vont quand même assez bien avec l'idée de l'œuvre visuelle, avec ses projections qui disparaissent. Mais voilà, on a du travail encore pour aboutir à quelque chose. On va peut-être travailler avec peut-être des résonateurs qui font faire vibrer l'installation. Enfin, il y a toute une dimension sonore qu'il faut qu'on prenne à bras le corps, donc c'est assez excitant.
Alexandre, merci beaucoup pour cet entretien fort intéressant, stimulant.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
À bientôt.
Alors voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir. On est de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous invite en attendant à jeter un coup d'œil sur le site de l'accroche-oreille. C'est l'accroche-oreille.wordpress.com. Vous allez trouver le détail des pièces qu'on a fait jouer ce soir avec en compagnie d'Alexandre Berthier. Et comme mot de la fin, ben je vous dis, soyez attentifs au son autour de vous.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec. Une œuvre imposante et marquante. Le dimanche 19 novembre à 14h30, au Grand Théâtre, l'Orchestre symphonique de Québec interprétera l'œuvre la plus célèbre du répertoire symphonique, la 5e de Beethoven. Les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter de la garderie gratuite de l'orchestre et de son atelier musical. C'est un rendez-vous le 19 novembre. Hydro-Québec, partenaire de saison.
Audiolite.
Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca.
Le temps des fêtes et ses traditions. La famille, l'accordéon de mon oncle Pierre, les cadeaux qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû », puis les autres qui te font dire
« Ah, t'aurais pas dû ».
Mon oncle Pierre, plus tard en soirée. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Vous écoutez La Totale, la chanson francophone sans interférence.